Le club de l'info, Florian Barbet.
La Suisse a décidé de sortir du nucléaire, c'est dit, c'est pas encore fait, mais c'est dit. Mais l'horizon des années 2030, qui devrait voir se fermer les dernières centrales de notre pays, ne nous fera pas sortir de l'ère nucléaire. Pour autant, les déchets radioactifs que nous produisons resteront un problème pour de longues années, pour de longues décennies, des siècles, des millions d'années. Jusqu'en 2006, la Suisse exportait ses déchets radioactifs vers la France ou l'Allemagne pour qu'ils soient retraités. Aujourd'hui, ces déchets sont stockés temporairement, le temps que nous trouvions une solution de long terme. Cette solution que tous les pays de l'atome doivent trouver semble passer par les profondeurs de notre sous-sol. Cette solution comporte-t-elle des risques? Sera-t-elle un cadeau empoisonné pour les générations futures? Nous partons dans les entrailles de la Terre ce soir dans le club pour y déposer les restes de notre industrie atomique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste, Lies Lalouis, professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du laboratoire de mécanique du sol, alors un laboratoire qui mène, entre autres dossiers, des recherches sur l'enfouissement des déchets radioactifs.
Exactement.
C'est ça. Nous avons également au téléphone Christian Wanzinger, conseiller national vert dans le canton de Vaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Lies Lalouis, ces déchets nucléaires, c'est vrai, c'est le corollaire embêtant de l'industrie nucléaire. Et qu'est-ce qu'on en fait pour l'instant en Suisse?
Alors, pour l'instant, la première chose qui est faite, c'est qu'on essaie de les entreposer quelque part. Donc, c'est des solutions provisoires. Vous avez mentionné tout à l'heure que auparavant, donc, ces déchets étaient envoyés en France pour être mis en piscine de refroidissement. Donc depuis 2005-2006, donc il y a eu la décision d'arrêter ce genre d'exportation. Donc ces déchets maintenant sont entreposés ici en Suisse en attendant de trouver une solution définitive. Donc le Conseil fédéral a accepté le début décembre, je crois que c'était le 1er décembre, la première étape d'une évaluation de ces possibilités d'entreposage des déchets nucléaires. Donc dans cette première étape, il a été décidé qu'il y avait à avoir tout d'abord le concept de stocker ces déchets nucléaires en sous-sol, donc dans des couches géologiques profondes. Donc ça, c'était la première décision. Ensuite, il y a eu le choix de 6 sites au niveau suisse qui vont maintenant faire l'objet d'une analyse plus approfondie en vue d'en retenir un qui servira par la suite comme le site de stockage définitif de ces déchets.
Alors on va essayer de mieux comprendre tout cela. Christian Wanzinger, vous êtes parlementaire, évidemment anti-nucléaire, hein, parti des Verts, et très impliqué dans ce dossier-là. Rappelez-nous peut-être quel était le sens de cette décision de 2006, issue du Parlement, je crois, de ne plus exporter les déchets.
Écoutez, ces déchets étaient exportés à La Hague et à Sellafield dans le but de séparer le plutonium qui aurait dû être réutilisé de l'uranium appauvri et des autres déchets radioactifs. Le problème, c'est que aussi bien à La Hague qu'à Sellafield, d'importantes quantités de radioactivité étaient rejetées dans la mer, d'autres partaient dans les airs, donc c'était très mauvais pour la santé des gens qui habitaient aux environs et aussi au point de vue pollution radioactive de la mer.
Sans compter que le transport, donc, j'imagine, comportait certains risques.
Voilà, on a cessé d'exporter nos déchets pour retraitement. Voilà, ça c'était le sens de cette interruption, mais on n'a pas pour autant trouvé une meilleure solution.
Alors, on va en parler justement. Il y a plusieurs sortes de déchets, professeur.
Oui, il y a, grosso modo, on les classe en 3 catégories. Il y a les déchets qui sont de très haute radioactivité, à très longue durée de vie. Donc, c'est en termes de quantité, ça représente quelque chose comme l'ordre de 7300 mètres cubes. Ces déchets-là. Ensuite, il y a les déchets de moyenne radioactivité. Donc, ce sont des déchets, donc, comme le nom l'indique, donc sont un peu moins néfastes, mais qui restent quand même très néfastes, hein, et où on estime aujourd'hui cette quantité en prenant en compte les déchets qui seront le résultat du démantèlement des 5 centrales nucléaires suisses à quelque chose de l'ordre de 66 000 mètres cubes. Ensuite, il y a la troisième catégorie, ce sont les déchets de faible radioactivité et aussi de courte durée de vie qui émanent de la recherche scientifique, de de la médecine, de l'industrie aussi, et c'est quelque chose de l'ordre de 33 000 mètres cubes.
Alors là, vous parlez de court terme, de long terme, pour ce qui est de la dangerosité de ces matériaux. Quand on dit court terme, ça veut dire quoi?
Alors c'est le temps qu'il faut pour que la radioactivité disparaisse. Mmh. Alors c'est, tout est relatif. Hein. Donc quand on parle par exemple plutôt du long terme, qui sont des déchets où on estime qu'il faudrait pratiquement 1 million d'années, donc c'est des chiffres D'accord. complètement démesurés qu'on prononce, pour qu'on soit sûr qu'on a perdu cette radioactivité.
Donc ouais, on regarde à quelle vitesse ça baisse et puis on fait un...
Voilà, on fait des prédictions sur la durée. Mais c'est des déchets, donc on voit très bien que qui ont une durée de vie qui est extrêmement importante, et donc toute solution à trouver doit être vraiment une solution du très très long terme, une solution autant sûre que possible.
Alors, à haute radioactivité, ça va taper dans le million d'années. Bon, ça, on a bien compris que c'était un problème à très long terme. Pour les déchets à plus basse radioactivité,
c'est 1000 années.
Ah oui, donc quand même.
Dans tous les cas,
c'est du long terme.
Des processus qui prennent beaucoup, beaucoup de temps.
À vision humaine, du moins, c'est du long terme. Hein. Je crois 1000 ans, on peut entrer ça dans le long terme. Alors, le traitement des déchets, il va se passer comment? Quelle est la procédure finalement? Alors maintenant, on les stocke de façon temporaire, on l'a dit. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après?
Alors, l'idée, c'est de faire ces zones d'enfouissement souterraines. Donc, en commençant par les déchets à très haute radioactivité, mais le principe est un peu similaire pour les autres, mais pour les déchets à très haute radioactivité, l'idée c'est donc d'identifier une couche géologique très stable, la plus stable possible, et de faire en sorte donc de creuser des tunnels et des galeries souterraines. Donc on parle de quelque chose comme une profondeur de l'ordre de 600 mètres. Donc on creuse ces galeries-là, on va... D'abord, ces déchets, donc le système d'enfouissement est basé sur un principe un peu à la poupée russe. Donc où l'idée, c'est qu'on ait plusieurs barrières ouvragées. Mmh. Donc on va les vitrifier, on va les mettre les solidifier aussi, c'est possible. Ensuite, on a des barrières ouvragées qui sont plus naturelles. Il y a ce qu'on appelle une première barrière faite de bentonite, qui est un matériau gonflant, qui a une capacité de rétention extrêmement importante. Donc c'est un matériau d'ailleurs qu'on crée nous-mêmes, hein. Donc c'est créé de façon industrielle, par l'homme. Donc et ensuite il y a la dernière barrière qui est le milieu géologique en lui-même, qu'on aimerait qu'il soit le plus perméable possible et le plus stable possible.
Donc, et là, ça fait perméable.
Le plus imperméable. Le plus imperméable possible. Et donc là, ça fait toute une série de systèmes qui sont supposés finalement confiner ces déchets. Donc, on va créer ce genre d'installation. Donc, pour les plus hautes radioactivités, donc quelque chose de l'ordre de 600 mètres profondeur. Pour les moyennes activités, bon, on table sur 200-300 mètres de profondeur. Et pour les faibles radioactivités, c'est des stockages en surface. Donc, qui sont faits. Parce que les faibles radioactivités, les durées de vie, on parle de 20 à 50 ans comme durée de vie. Donc, en France, on fait déjà ce genre de stockage
dans le sol,
en surface, donc pour ce genre de déchets. Mmh. Donc, c'est les trois concepts qui sont...
Stabilité du sous-sol, j'ai une question un peu naïve, mais est-ce qu'on risque pas de le rendre instable en allant creuser des galeries là?
Non.
Si vous permettez, professeur, je vous en prie. Vous donnez votre cours, mais vous savez très bien que tout ce qui était fait jusqu'à présent, suivant ces belles théories, s'est révélé être des échecs. Alors, je ne peux pas parler là des débuts où on a immergé en haute mer entre 1971 et 1982. Même la Suisse l'a fait. Il y a eu plus de 6700 fûts de déchets radioactifs, de faible et moyenne radioactivité. Et ces fûts étaient censés résister au moins 1000 ans. Donc à entendre les savants, comme monsieur le professeur qui parle maintenant, notre interlocuteur, ils devaient résister ces fûts entre 1000 et 10 000 ans. Résultat, après quelques dizaines d'années, plus de la moitié des fûts étaient éventrés. Donc on a arrêté d'immerger des fûts en haute mer. Mais après on s'est dit, bon, on va les enfuir. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que là aussi, ce qui a été fait jusqu'à présent s'est révélé être des échecs. Hein. Les Allemands ont dit, on va les mettre dans des mines de sel. Ils ont dit, les mines de sel, s'il y a du sel, c'est que c'est resté étanche pendant déchets même hautement radioactifs, hein, est envahie par les eaux, la nappe phréatique est polluée et par la radioactivité, et maintenant ils doivent ressortir ces déchets, ils ne savent pas très bien comment ils vont s'y prendre, mais ils ont déjà estimé que ça va coûter plus de 3 milliards de marques.
Mais Christian Hunzinger, là, vous...
d'euros. Et puis la même chose, hein, les Russes se sont dit, on va les liquéfier et les mettre dans des anciens puits de pétrole. Là aussi, ils se sont dit, les puits de pétrole, s'il y a du pétrole, c'est resté étanche pendant des dizaines de millions d'années. Ben là aussi, il y a des fuites, et après quelques années, les nappes phréatiques ont été polluées. Donc on voit que chaque fois, les spécialistes garantissent qu'on a trouvé la bonne solution, mais malheureusement, chaque fois, il y a des fuites, et ça répond pas tout à fait aux espoirs, aux attentes.
Alors, moi, je n'ai pas entendu le professeur Lalouie nous garantir que c'était sans risque. Pour l'instant, il nous expliquait simplement la photographie de ce qui va se faire. Mais vous donnez des...
Si on propose quelque chose, il faut quand même garantir aux populations et garantir qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que même à 600 mètres, hein, prenez une... Monsieur le professeur a dit tout à l'heure, ça doit rester séparé, disons, de la biosphère des centaines, donc, il a dit un million d'années, c'est en tout cas des centaines de milliers d'années pour retomber à une radioactivité naturelle. Mais vous savez très bien que si tout d'un coup il y a un glacier, il creuse bien plus que 600 mètres de profondeur. Il n'y a qu'à voir ici le Léman. Hein, le Léman, avant le passage du glacier du Rhône, il n'y avait pas cette grande fosse qui est maintenant le lac Léman. Donc, si tout d'un coup, si on décide de mettre nos déchets sur le plateau et que demain il y a de nouveau une ère glaciaire avec des glaciers qui vont creuser, ben, la radioactivité va se répandre et vraiment.
Et fera fondre la glace.
Cette solution de dire on creuse un trou et on rebouche et voilà, et après nous le déluge, c'est vraiment pas une bonne solution.
Mais bon, là, est-ce que vous en avez alors des solutions? Parce qu'on a un problème qui est là. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que les milieux écologistes préconisent? Parce qu'on a un peu l'impression que maintenant il faut faire quelque chose, quoi qu'il advienne. Est-ce qu'il n'y a que des mauvaises solutions?
Écoutez, pour l'instant, la moins mauvaise, c'est de les garder surveillés en surface. C'est la moins mauvaise. Mais cacher la merde au chat, faire un trou et boucher, c'est vraiment pas la solution idéale. En Suisse, on dit cette roche Opalinus, hein, on dit elle va se gonfler, elle est étanche, c'est merveilleux. C'est un peu comme une argile. Mais tout le monde sait que si on cuit une argile, ça devient quoi? Ça devient une brique qui se fissure, qui est cassante. Et puis en plus, une argile, comme j'ai dit tout à l'heure, peut être creusée par un glacier. Hein.
Alors, professeur, on va écouter la réponse du professeur Lalouie.
Alors, je vais réagir. Je comptais pas réagir initialement, mais je vais réagir parce que je trouve un peu provoquant ce que vous dites. Hein. Tout d'abord, je suis un peu surpris de la confiance que vous faites aux scientifiques, hein, parce que c'est un peu surprenant, parce que il faut quand même se mettre en tête que c'est ces mêmes scientifiques qui sont en charge aussi de développer des énergies renouvelables. Et pour citer un exemple, je peux me citer moi-même, hein, je développe différentes nouvelles technologies pour différentes nouvelles façons pour produire de la chaleur, du froid et tout ce qui va avec. Et je crois que s'il y a une confiance à faire dans le milieu scientifique, on doit le faire à la fois quand on s'occupe de problèmes de stockage de déchets nucléaires ou aussi pour quand on s'occupe de l'énergie du futur.
Donc, de toute façon, si on le met pas entre les mains des scientifiques, on va le mettre entre les mains de
donc,
qui
je
hein,
trouve problème. Que cette défiance que vous faites là est un peu surprenante. Ensuite, je n'ai à aucun moment exprimé le fait qu'on garantissait quoi que ce soit. Je crois que c'est un autre aspect de discuter du risque d'une défaillance dans le système. Ça, c'est un autre aspect qu'on peut discuter en profondeur, mais on ne peut pas juste l'évoquer comme ça en disant « tiens, que tout ne marche pas ». Vous avez oublié dans votre raisonnement le fait que, au moins dans le concept suisse, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays, tel qu'il est conçu le stockage aujourd'hui, c'est un stockage réversible. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'enfouir ces déchets dans un endroit donné, de continuer à contrôler et à suivre l'évolution du système, hein, donc tout ce qui se passe est contrôlé, mesuré. Et
on referme pas le tunnel.
On ne referme pas, on le garde à très longue durée. Il est même conçu, et ça je ne fais pas défenseur de gens qui conçoivent ça, c'est un agra qui s'en occupe, mais il faut dire qu'est-ce qu'il est prévu. Il est même prévu, donc déjà dans les études actuelles, qu'il y ait un système de robots qui puisse aller récupérer ces fûts, s'il se trouvait qu'on trouverait une façon de les retraiter, ou de réutiliser cette énergie dans le futur. Donc tout est possible, donc on n'est pas parti dans un système où on a tout fermé et abandonné ça aux générations futures. Et personnellement, ça, je trouverais que la solution de les stocker en surface, la plus mauvaise des solutions aujourd'hui. Pour la simple raison, on l'a vu dans le cas du Japon, où il y avait des déchets nucléaires qui étaient stockés en surface, et finalement, ça a posé plus de problèmes que peut-être les centrales nucléaires en elles-mêmes. Et peut-être, si je peux me permettre, une dernière remarque sur l'effet de la température sur les argiles. Je crois que ça, c'est un domaine que je maîtrise pour dire que ce que vous dites là n'est pas tout à fait juste. Tout d'abord, le gonflement n'est pas l'argile qui doit gonfler, mais c'est la bentonite, c'est la barrière ouvragée. On n'est pas à des températures que vous imaginez qui vont faire cuire l'argile. On est loin de là. Hein. On ne dépasserait pas les 150 degrés dans les concepts les plus chauds qui existeraient aujourd'hui au monde. Plutôt, on parle plutôt de 120 en Suisse, on parle de 90 en France, donc degrés Celsius. Donc, je crois qu'il faut...
Et l'argile, ça cuit à beaucoup plus.
Ah ben oui, largement plus. Donc, il faut rester à des considérations tout à fait raisonnables. Je pense que le problème est extrêmement délicat. Tout ce que mène la communauté scientifique comme analyse aide à la prise de décision. Donc, apporte des contributions techniques, scientifiques, pour permettre de savoir de quoi il s'agit. À côté de cela, il y a la vulnérabilité du processus et la dangerosité des déchets nucléaires qui sont extrêmement importantes et avérées. La décision, c'est une mesure de risque. Donc, c'est d'un point de vue mathématique, c'est un produit entre la probabilité de fuite et la vulnérabilité. Et donc, on va avoir une estimation. On va dire, voilà le taux de risque. Et ensuite, il y a une analyse de la société, donc du citoyen, qui dit quel est le risque tolérable pour une société, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas, et à quel point on pousserait la sécurité du système. C'est comme prendre l'avion. On sait très bien qu'il est plus sûr de prendre l'avion que de prendre la voiture, parce qu'on a poussé les limites de la sécurité des avions. Bien sûr, il y a toujours des risques.
Voilà, Christian Wanzinger, en une minute, parce qu'on va parler d'un autre aspect.
Non, mais voyez, le problème avec les déchets nucléaires, c'est comme si on avait pris l'avion sans avoir la possibilité d'atterrir, sans savoir très bien comment on va atterrir. C'est ça ce qu'on a fait avec l'énergie nucléaire.
Oui, mais on l'a fait il y a longtemps. Là, on n'est plus dans ce problème-là maintenant.
Et depuis, on n'a pas trouvé encore comment atterrir, c'est-à-dire on n'a pas trouvé une solution pour les déchets. Donc peut-être je me suis exprimé pas assez clairement, mais je pensais pas effectivement à la chaleur uniquement dégagée par les déchets radioactifs eux-mêmes. Là, il y a aussi la radioactivité, bombardement par des neutrons et d'autres particules. Mais c'est pas que ça. C'est que vous ne pouvez pas garantir aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'événement géologique dans le million d'années qui suit, que ça soit une ère glaciaire, une glaciation, que ça soit des phénomènes volcaniques ou d'autres qui mettent... vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y ait pas un tel événement dans le million d'années qui suit, même en Suisse. Et là, une question que je vais poser au professeur... Est-ce que c'est vraiment raisonnable de vouloir à tout prix trouver une solution en Suisse? Parce qu'on sait quand même que les Alpes, c'est une région qui continue à bouger, qui continue à se soulever, où il y a tout le temps des petits tremblements de terre, donc dans toutes ces roches, il y a continuellement des fissurations, il y a des eaux souterraines qui changent de circulation. Est-ce que c'est raisonnable vraiment de trouver une solution en Suisse, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer, au moins au niveau européen, de trouver ensemble l'endroit le plus approprié et au point de vue géologique et au point de vue densité d'habitation.
Voilà, je crois qu'on a bien, compris la question. C'est aussi une de mes questions. Sauf que Claire, vous devez observer l'activité sismique avec beaucoup d'attention pour ces projets-là. Est-ce que la Suisse, comme le dit Christian Wanzinger, est apte?
Oui, alors, tout d'abord, les recherches scientifiques se font au niveau européen, se font au niveau international. Et donc, pour citer encore une fois mes propres recherches, une très grande partie d'entre elles sont financées par des projets européens, donc avec tous nos autres partenaires des autres universités européennes. Donc il y a donc cette volonté-là, finalement, de mettre ensemble nos savoirs, nos compétences.
Vous accueillez d'ailleurs une conférence, hein, une conférence internationale à l'EPFL du 1er au 3 février sur ces questions.
Par contre, de l'autre côté, la responsabilité de stocker donc de ces déchets, elle est nationale. Donc ça, finalement, je sors de mon domaine d'expertise hein, pour parler en tant que citoyen. C'est une responsabilité nationale. Donc chacun est responsable de ses propres déchets. Alors il se trouve que dans la plupart de ces pays européens, il y a des sites adéquats. Parce que il faut imaginer les déchets dont on est en train de parler, c'est 7300 mètres cubes. Bien sûr, ils sont très dangereux, mais en termes de volume, ça représente 7 maisons. Ça représente le hall d'une gare.
Une poussière inhalée tue.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est juste pour dire que trouver un milieu géologique, on peut en trouver un peu partout. Chaque pays peut en trouver. En Suisse, entre autres, vous avez cité cette argile au Palenus. Il se trouve que c'est une argile extrêmement stable. Donc, c'est une argile qui traverse une grande partie de notre pays, qui va de la surface dans le nord du pays, et on la retrouve pratiquement à une profondeur d'un kilomètre au sud du pays. Donc, c'est une argile très stable depuis des millions d'années, ça bouge très peu, il n'y a pas... Donc, et après, il y a l'alia. L'alia qui est le risque que quelque chose se produise. Et vous avez très bien fait de citer l'aspect sismique, par exemple. Donc, ça fait partie des alias. Le risque zéro n'existe pas, ça c'est évident.
Alors moi j'aimerais comprendre justement comment on choisit ces sites. Maintenant vous avez parlé de 6 sites potentiels, il faudrait après de nombreuses études en garder un, hein,
c'est voilà, ça ? Voilà, exactement.
Et alors on va essayer de comprendre où ça se trouve déjà sur le territoire de la Suisse, et puis après comment réagissent les populations évidemment.
Alors donc le concept il a été fait de la sorte, c'est que... Le Conseil fédéral a commencé d'abord par fixer les règles du jeu, en disant, voilà quels sont les critères techniques, et en associant les cantons, et tout le monde s'est mis d'accord. Donc il y a une très grande consultation à tous les niveaux de la Confédération, où les gens se sont exprimés. Et donc les règles du jeu ont été fixées, et en disant finalement, si on identifie un site avec tous ces critères-là, les gens du site doivent accepter que ça se fasse chez eux. Donc il y a eu cette première étape, donc je disais que le 1er décembre dernier, le Conseil fédéral a fait son communiqué en disant qu'il a eu approbation de cette première étape. Donc les 6 sites qui s'en ont sortis, d'abord c'était une pré-étude, donc il y a eu des études sur tous les sites, et sur ces 6 sites... Il y a déjà les premières caractéristiques, imperméabilité du milieu, stabilité du milieu. Donc tous ces aspects géologiques ont été identifiés. Maintenant, la deuxième étape, c'est la nouvelle mission qu'a confiée le Conseil fédéral en association avec le canton, consiste à demander à l'ANAGRA et à l'Office fédéral de l'énergie de regarder de plus près ces sites-là pour trouver finalement celui qui est le plus approprié.
On arrive dans 3 minutes, on sera au bout de l'émission, mais... Ils sont où ces sites? Ils sont sur le plateau?
Ils sont surtout au nord de la Suisse, dans la région zurichoise. Ils sont proches des actuelles centrales nucléaires. Il y en a qu'un qui est au nord du Jura, donc pour parler suisse romand. Mais donc ils sont tous en zone suisse-almanique, proche de la frontière allemande.
Voilà, c'est ça quand même qui est assez extraordinaire. C'est de voir que, comme par miracle, tous ces sites sont proches des centrales nucléaires et sont proches de la frontière française ou allemande. C'est-à-dire, on les a mis le plus loin possible, d'abord de la Suisse romande, parce qu'on a vu que les Suisses romands n'ont pas envie de déchets nucléaires.
Mais qui a envie de déchets nucléaires?
Ensuite, près des frontières, c'est-à-dire le plus loin possible des centres habités. Donc, on voit que monsieur le professeur semble dire que c'est des critères scientifiques qui ont dicté le choix de ces cycles. Moi, je dirais que ça ressemble aussi à des choix politiques, parce que le politique s'est dit, et les responsables d'Anagra aussi, s'ils ont accepté les centrales, les populations de ces régions-là, ils vont aussi accepter d'avoir des déchets.
Bon, la zone zurichoise, c'est pas la zone la plus...
Le sixième site, paradoxalement, c'est le Wellenberg, où la population a déjà à 2 reprises refusé d'avoir des déchets, et puis les autorités avaient dit très bien, on tient compte de votre volonté, et malgré ça, ça réapparaît. Moi, j'y crois pas. Toute cette procédure où maintenant on commence à demander aux gens sur place Est-ce que vous voulez que le dépôt soit peint en vert ou peint en gris?
Allez un peu au fait, Christian Wanzinger, parce qu'on va finir là.
Est-ce que vous voulez qu'on y accède par dessous, par centrale, par un tunnel ou comment? C'est-à-dire, on n'a pas encore traité, résolu le problème fondamental de savoir si ces sites seront sûrs, si on est sûr qu'il n'y a pas de fuite dans un avenir proche ou éloigné. On n'a pas résolu ce problème-là et on commence déjà, pour des raisons politiques, à dire on va les mettre près des frontières, dans le Jura.
Oui, bon, moi j'ai entendu parler de la région zurichoise, on ne peut pas dire que ce soit la région la plus politiquement sinistrée de la Suisse.
C'est loin de Zurich.
D'accord. Alors, juste une dernière question, il faudra répondre très rapidement, professeur. On a l'impression que la population est très... Il y a eu une enquête de l'OFEN, hein, l'Office fédéral de l'énergie, en 2008 sur les déchets nucléaires. La population est très mal informée, finalement. Ça fait partie, vous donniez une conférence aujourd'hui à Sion, ça fait partie de votre devoir d'expliquer un petit peu cette solution. Est-ce que vous en savez? Est-ce que c'est votre mandat, justement? On vous demande de sensibiliser la population?
C'est pas un mandat de la Confédération, mais c'est un mandat dans mon activité de professeur, donc d'employé aussi de la Confédération. Donc c'est un mandat d'informer, de dire quelles sont les connaissances qu'on a aujourd'hui scientifiquement, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, quels sont les risques qui sont liés à ça. Et ça permet aussi à chacun de se forger une idée, de se faire une opinion. Et à ce moment-là, chaque citoyen peut s'exprimer sur le sujet. Donc effectivement, je crois que c'est un devoir de l'ensemble de la communauté scientifique de communiquer ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas.
Eh bien, merci en tout cas d'être venu partager votre savoir avec nous ce soir dans le club. Merci Christian Wanzinger également de nous avoir rejoints. Et puis, c'est un dossier dont on pourra reparler, j'imagine, très souvent, puisque c'est pas gagné, hein, on en a pour 1 million d'années.
Mais, merci,
bonne soirée à vous. Dans 2 minutes, on a les infos du club, ça c'est plus proche.